Chers auditeurs et chères auditrices, bonjour. Nous continuons notre série intitulée « Quelle est notre vocation céleste ?» Quelle est notre vocation céleste ? Nous arrivons à l'étude numéro 5 et le titre pour aujourd'hui sera « La position changée des disciples ». Nous avons montré que tel est le sujet qui est la clé à toute cette lettre aux Hébreux, un appel qui est adressé aux disciples de Christ et aux compagnons d'une vocation céleste. Et nous avons dit aussi que cette lettre est un résumé du Nouveau Testament tout entier. En faisant cette déclaration, nous vous ouvrons naturellement un champ de méditation très vaste. Il nous faut dire que simplement ceci, que tout ce qui se trouve dans le Nouveau Testament est rassemblé d'une certaine manière dans cette lettre. Et c'est pourquoi tout ce qui se trouve dans le Nouveau Testament se résume dans cette seule pensée, c'est-à-dire que Dieu cherche des disciples pour son Fils bien-aimé, et cela dans une vocation céleste, d'où notre titre. Nous allons maintenant creuser plus profondément dans cette lettre, en ayant toujours cette seule pensée dans notre esprit. Ce sont les disciples de Christ qui sont en vue. Disons quelques pensées au sujet du point de vue que prend cette lettre. Nous comprenons qu'elle a été écrite à ces Hébreux, chrétiens, et cela en un temps de crise très sérieuse, alors que tout un système qui avait existé depuis plusieurs siècles allait prendre fin. Donc tout le système de l'Ancien Testament, à partir de Moïse, allait cesser. Après que l'auteur a écrit tout ce qui se trouve dans cette lettre, il donne une citation de l'Ancien Testament où il est dit « J'ébranlerai encore une fois non seulement la terre, écoutez bien la suite, mais aussi le ciel. » Or ces mots, encore une fois, vous avez bien entendu, indiquent la transformation des choses qui, par cela même qu'elles ont été créées, seront, c'est ce qu'il est dit, seront un jour ébranlées afin que subsiste ce qui est inébranlable, afin que puisse subsister ce qui est inébranlable, selon ma version allemande. Hébreux chapitre 12, versets 26 et 27. Et ajoutez encore, Agée, chapitre 2, verset 6. Mais en citant ce passage des Saintes Écritures et en le mettant à la fin de cette lettre, l'auteur dit que c'est précisément ce qui va arriver. Et cela a prouvé être vrai. Il est évident que cette lettre a été écrite juste avant les années 70, avant Jésus-Christ. Les légions romaines se rassemblaient déjà autour de Jérusalem. Et nous savons, d'après l'histoire, ce qui est arrivé. La cité a été assiégée et totalement détruite, et il ne resta plus pierre sur pierre dans le temple. Et tout le pays a été dévasté. Le service sacerdotal a donc cessé et toutes les fonctions du temple ont pris fin. Tout le pays fut mis dans un état de désolation absolue. Et depuis ce jour-là, et jusqu'à même aujourd'hui, ce système a cessé d'exister. Et cette lettre, elle a été écrite parce que le Seigneur savait ce qui allait arriver. Et parce que dans le dessein divin, le moment était arrivé. Lisons toujours cette lettre à la lumière de cette grande crise historique. C'était donc le côté sombre de l'histoire. Mais nous remarquons que cette lettre est remplie de cette chose meilleure, qui a pris la place de l'ancienne, et nous nous arrêtons sur cette chose meilleure, et cela à mesure que nous allons avancer. Puisque le peuple d'une vocation terrestre allait être mis de côté, cette grande lettre d'une vocation céleste lui est adressée. Donc, avant d'avancer dans la lettre, souvenons-nous que son message demeure pour nous aujourd'hui. Ce serait une personne très aveugle que celle qui, aujourd'hui, ne verrait pas qu'un autre événement semblable est très près. Il a été édifié sur cette terre un autre grand système du christianisme. C'est un système très terrestre, et de même que les cœurs des Juifs étaient très attachés à leur système, ainsi en notre temps, des multitudes de chrétiens sont liés à leur christianisme historique. Je ne prétends pas être un prophète, surtout pas. Mais il y a dans la Sainte Parole, dans cette Sainte Parole de Dieu, beaucoup de passages qui parlent du moment où ce système sera ébranlé. Et c'est pas moi qui simplement va le prétendre. Je tire cela du livre des livres, mon vieux bouquin qui s'appelle la Sainte Bible. Il est très impressionnant que durant notre vie, nous avons vu cela s'accomplir dans une petite mesure, alors que des églises ont été détruites, des congrégations dispersées, si bien qu'il n'a plus été possible de continuer selon les anciennes formes. Les hommes ont dû rencontrer le Seigneur pour eux-mêmes, sans aucune aide terrestre. Ils ont donc dû recevoir leur secours du ciel et non simplement de la terre. Et nous avons vu cela arriver. Et cela est arrivé d'une manière comparativement petite. À deux occasions au moins, le Seigneur a frappé la terre en ces deux terribles reprises à peu d'années de distance, et il n'est pas difficile de voir que cela peut se répéter sur une échelle beaucoup, beaucoup plus grande. Cet événement peut n'être pas très loin de nous, pas très loin. Nous, les chrétiens, nous parlons du retour du Seigneur. C'est notre espérance et notre salut. Mais nous devons nous souvenir que le retour du Seigneur sera accompagné d'un jugement terrible sur cette terre où tout ce qui sera pas céleste sera vraiment ébranlé jusqu'à s'effondrer. Cette lettre a donc un message très réel pour nous, comme il était dit aux juifs chrétiens de ce temps-là, tout votre système auquel vous êtes si attaché doit passer. Ainsi, cette lettre nous dit aujourd'hui, tout le système terrestre sera ébranlé et secoué. Mais il en arrive un meilleur. Il en arrive un meilleur. Dieu avait en vue pour vous, pour nous, quelque chose de bien meilleur. Hébreux chapitre 11, verset 40. Tel est donc le point de vue de cette lettre. Je suis certain que nous voyons cela s'appliquer à notre temps. Nous ne faisons pas simplement l'étude d'un livre de la Sainte Bible lié à bien des siècles en arrière. Dieu est le Dieu éternel et il parle pour tous les temps. Mais le message s'identifie à mesure que nous approchons de la fin. Nous continuerons maintenant à voir cette transition de ce qui est terrestre à ce qui est céleste. Selon les termes du Nouveau Testament et de cette lettre en particulier, il s'agit de la transition d'un Israël terrestre historique à un Israël céleste et spirituel. Nous considérons donc le commencement d'Israël à ces deux égards. Avons-nous remarqué comment commence la lettre? Elle commence par un mot, Dieu. Yahvé l'Éternel, Dieu. Nous pouvons mettre un grand anneau autour de ce mot. Dieu domine tout le contenu de cette lettre. Tout ce qu'elle contient doit être compris au point de vue de Dieu, non pas à celui de l'homme, ni à celui du monde, ni sous aucun, on peut dire, aucun aspect terrestre. C'est donc Dieu qui parle, et tout ce qui est dit ici, c'est ce que dit Dieu. Dieu gouverne tout ce que contient cette lettre et personne ne peut dire qu'elle soit de l'homme. À mesure que nous avançons dans cette lettre, nous devons constamment nous dire à nous-mêmes, c'est Dieu qui dit ceci. Ce n'est pas l'interprétation d'un homme. Non, c'est Dieu qui parle. La grande transition marquée par cette lettre nous montre Dieu qui marche en avant. Dieu avance. Dieu a la charge de toutes choses. Et la lettre nous dit, les disciples de la voie céleste sont ceux qui marchent avec Dieu. L'appel de la lettre est donc « Avançons parce que Dieu avance. » Alléluia. Tout l'ancien système juif était quelque chose qui s'était établi et qui, dans un sens très réel, s'était un peu endormi. Dieu n'est pas le Dieu de ceux qui dorment spirituellement. Oh non, non, non. L'appel adressé à Israël était « Réveille-toi, toi qui dors !» Éphésiens, chapitre 4, verset 14. « Réveille-toi, toi qui dors !» Ce système s'était donc endormi, s'était établi, était devenu une fin en soi. Il n'avançait pas avec Dieu. C'était le trouble au temps des prophètes. Et cette lettre nous dit, Dieu avance. Les disciples de Christ sont ceux qui avancent avec Dieu. Souvenons-nous de ceci. Un christianisme véritable, vivant, qu'est-ce que c'est? un christianisme véritable et vivant, c'est un christianisme qui avance. Il ne s'arrêtera jamais, ni dans cette vie, ni durant l'éternité. Il est dit, à l'accroissement de son empire, il n'y aura pas de fin. Ésaïe, chapitre 9, verset 7. Nous commençons ainsi avec Dieu et nous avançons avec Dieu. Alléluia. Dans cette lettre, Dieu s'exprime lui-même. Et cela nous est dit dans les tout premiers mots de la lettre. Dieu, ayant autrefois parlé à nos pères. Notez Hébreux chapitre 2, verset 1, mais nous y arrivons tout à l'heure. Alors je répète, Dieu ayant autrefois parlé à nos pères à plusieurs reprises et de plusieurs manières, par les prophètes, nous a parlé dans ces derniers temps en son Fils. Et nous rencontrons donc ici un Dieu qui s'exprime. Il nous est déclaré être un Dieu qui parle. Il n'est pas un Dieu muet ou silencieux, pas du tout. Il est un Dieu qui a toujours parlé et qui parle maintenant. Ainsi, dès le début, cette lettre déclare que Dieu est un Dieu qui parle. Et ensuite, pour analyser la chose plus loin, il nous s'est montré comment un Dieu qui parle avec une intention, il est un Dieu de dessein, et il parle selon son dessein. Il a parlé dans les temps passés par les prophètes et de plusieurs manières. Eh bien, il parle maintenant en son Fils bien-aimé. Et nous trouvons ici deux choses très importantes à relever. Dans les temps passés, Dieu a parlé à plusieurs reprises, et ceci par plusieurs prophètes. Il a dit une chose par un prophète et une autre chose par un autre prophète. Or, tous les prophètes étaient des partie de la sainte parole de Dieu. Aucun prophète n'a jamais dit tout. Et c'est vrai, même ceux qui ont le don de prophétie ne pourront jamais tout dire par eux-mêmes. Dieu utilise celui-ci et celui-là et celle-ci et celle-là. Nous pouvons relire les prophètes et nous verrons que chacun d'eux avait un aspect spécial du message de Dieu. À plusieurs reprises, ou plutôt en plusieurs parts, c'est le mot, sa dernière parole en Christ, c'est la réunion de toutes les parties en un tout. C'est-à-dire toutes les parties sont réunies en Christ. Et cela donne à cette lettre donc une place très très grande, n'est-ce pas? Elle nous dit que maintenant, ici, Dieu parle en plénitude en son Fils. Et il se trouve à côté de cela l'appel à nous attacher d'autant plus. Hébreux 2, verset 1. Je répète, et il se trouve à côté de cela, l'appel à nous attacher d'autant plus parce que cette parole est d'autant plus pleine que tout ce qui avait été dit auparavant. J'ai dit Hébreux 2, verset 1. Il est dit ensuite que dans les temps anciens, Dieu avait parlé de plusieurs manières, non seulement en plusieurs portions, mais de manière différente. Il serait bien trop long de retourner à l'Ancien Testament pour voir toutes les manières différentes dont Dieu a parlé. Il a parlé de milliers de manières différentes. Quelquefois par des paroles, d'autres fois par des actes. Les manières étaient en vérité très diverses. Il nous est cependant dit ici que à la fin, il parle d'une seule manière, c'est-à-dire d'une manière unique, et cela en son Fils bien-aimé. Le Fils de Dieu est donc sa manière unique de parler à la fin. Et d'un côté, personne ne pourra recevoir quelque chose de Dieu en dehors de Jésus-Christ. Dieu refusera absolument de parler autrement que en son Fils. Si nous désirons savoir ce que Dieu veut nous dire, il nous faut venir à son Fils. D'un autre côté ou d'une autre côté, nous avons en Jésus-Christ tout ce que Dieu désire nous dire. Et j'aimerais dire spécialement ceci aux jeunes chrétiens. J'ai lu et étudié ma Bible, le vieux livre, durant toutes ces années. Et je puis vous dire honnêtement qu'aujourd'hui, ce livre me dépasse entièrement. Je ne reviendrai jamais à cette lettre aux Hébreux si cela n'était pas vrai. J'ai parlé sur cette lettre depuis des années, mais aujourd'hui, elle me dépasse absolument. Devrais-je dire que la lettre aux Hébreux, il serait plus correct peut-être de ma part de dire le Seigneur Jésus qui est révélé dans cette fameuse lettre. Oui, Dieu nous parle beaucoup plus en son Fils que ce que nous avons pu comprendre jusqu'à aujourd'hui. Nous n'avons rien en dehors de Jésus-Christ. Et nous n'avons besoin de rien en dehors de lui. Nous avons dit que cette lettre nous présente Dieu, le Père, comme un Dieu de dessein, et elle continue à nous montrer que son dessein est concentré et qu'il se résume en son Fils. Cela nous est dit au commencement de cette lettre de trois manières. Premièrement, dans la personne de son Fils, regardons simplement ceci. En ces derniers temps, Dieu nous a parlé en son Fils, celui qu'il a établi héritier de toutes choses et par lesquelles il a fait le monde, celui qui étant le rayonnement de sa gloire, l'empreinte même de sa personne. Et nous voyons que tout le premier chapitre consiste à nous présenter le Fils de Dieu. Dieu parle de son Fils et il nous dit qui il est, combien grand est vraiment ce Fils. Ensuite, il présente le Fils en termes de rédemption. Il a donc accompli la purification des péchés. C'est une simple phrase, mais combien de chapitres suivront maintenant pour expliquer ce que est vraiment la rédemption? Tous ces chapitres sur le sacerdoce et le sacrifice sont liés à cette seule phrase. Dieu parle en son Fils bien-aimé concernant la rédemption. En troisième lieu, il parle Dieu en son Fils concernant la gloire. Le Fils est le rayonnement de sa gloire. Et il veut amener beaucoup de fils et de filles, j'ajoute, à la gloire. Hébreux chapitre 2, verset 10. Parce que, après avoir accompli la purification des péchés, il s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Dieu parle en son Fils, qu'il a maintenant glorifié et qui s'est assis à sa droite. Mais Dieu ne parle pas uniquement en son Fils pour en rester là. Nous remarquerons que, au chapitre 2, il fait entrer l'homme en cela, et cette lettre a un message merveilleux pour l'homme. Tout ce que Dieu a mis en son Fils est pour l'homme. Dieu parle dans cette lettre de l'œuvre parfaite de Christ, c'est-à-dire de l'œuvre qu'il a accomplie pour l'homme. Vous avez compris, c'est un mot qui inclut la femme. Il y a donc ici une chose à laquelle vous et moi, nous devons nous arrêter. Personnellement, je suis continuellement ramené à ceci. Je n'ai pas encore appris à croire à ce que en quoi je crois. Pardon. Je crois en l'œuvre accomplie de Christ. Et cependant, je suis parfois aussi misérable à mon sujet qu'un homme peut l'être. Je me trouve souvent prêt à tout abandonner, et cela à cause de la nature misérable qui est la mienne. S'il y a dans ce monde quelque chose qui me pousserait à abandonner le ministère chrétien, eh bien c'est bien moi-même. Comprenez-vous ce que je veux dire? Oh, combien nous sommes découragés parce que nous découvrons en nous-mêmes, je ne dis pas que c'est pour tout un chacun ainsi, mais pour moi c'est le cas. Ainsi donc, nous ne croyons pas en ce en quoi nous croyons, ou pas toujours, nous croyons en l'œuvre accomplie de Christ, cette œuvre parfaite que Dieu place tout entier à notre compte. Dieu ne nous voit pas en ce que nous sommes en nous-mêmes. Heureusement, il nous voit uniquement en Christ et par Christ. Ce n'est pas nous qu'il voit, il voit Christ en nous. Ça change tout. Nous ne croyons pas assez en cela. Si nous le croyons ou si nous pourrions le croire réellement, nous serions délivrés de nous-mêmes et nous serions en effet des chrétiens triomphants. Cela ne signifie pas naturellement que nous devions nous conduire n'importe comment. Non, c'est impossible, ce serait trop grave. Nous pouvons commettre des fautes en parole ou en acte, malheureusement. Mais pour chaque chrétien, il y a un refuge, il y a un siège propitiatoire. Voyez-vous, il n'est plus besoin d'être établi, il est là sous le sang précieux. Et ce sang n'a plus besoin d'être répandu, car il est répandu. Il y a un souverain sacrificateur qui fait intercession pour nous. Heureusement, pour certains d'entre nous, comme moi, tout ce dont nous avons besoin donc est là. L'œuvre est achevée, parfaite. Oh, nous les chrétiens, nous devons croire en ce que nous croyons. Il faut nous saisir, et cela même avec les deux mains, de tout ce qui est notre foi chrétienne. Mais je sais que nous avons des problèmes, lorsque nous disons des choses comme c'est le là, que en est-il de ce vieil homme? Peut-être sommes-nous un de ceux qui croient que le péché a été absolument déraciné de notre nature et qu'il nous est tout à fait impossible de pécher. Eh bien, si vous croyez cela, que le Seigneur vous aide. Je crois qu'un jour, vous serez très surpris de découvrir qu'il y a encore un vieil homme en vous. Et je le constate encore aujourd'hui. Mais laissons cela. La plupart d'entre nous, nous savons qu'il y a en nous deux natures. Il y a l'homme nouveau et il y a le vieil homme de 89 ans. Il y a l'homme spirituel et il y a l'homme naturel. Et cet homme naturel est quelqu'un de très ennuyeux. Qu'en est-il de lui à l'égard de cette œuvre parfaite? Cette lettre nous le dit lorsqu'elle déclare, notez Hébreux chapitre 12, verset 7, « Dieu vous traite comme des fils. » Dieu vous traite comme des fils. Et Dieu aime les fils. J'ajoute les filles, vous l'avez compris, ça veut dire la même chose, que personne ne soit offusqué, s'il vous plaît. Donc, sommes-nous un enfant de Dieu? Eh bien, je crois que je connais une sœur qui s'appelle sœur May, et au premier coup que je l'ai rencontrée, j'ai vu qu'elle était, et je n'ai pas seulement vu, c'est le Seigneur qui me l'a dit, qu'elle était un véritable enfant de Dieu, une véritable disciple, ainsi que son mari. Y a-t-il eu dans notre histoire cette action profonde de la nouvelle naissance? Avons-nous reçu le Seigneur Jésus? La sainte parole de Dieu nous dit, à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Saint Jean chapitre 1 verset 12. Si nous avons reçu le Seigneur Jésus, nous sommes un enfant de Dieu. L'Esprit du Fils est entré en nous et demeure en nous. On peut dire ensemble, Alléluia. Cette lettre dit que Dieu aime ses fils, et j'ajoute ses filles, vous l'avez compris, et c'est pourquoi, parfois, il les châtie. Il les châtie parce qu'ils sont ses enfants. Et tout châtiment, dit la lettre, semble un sujet de tristesse, c'est vrai. Hébreux chapitre 12, verset 11. Les châtiments de Dieu à l'égard de sa propre famille ne sont pas toujours faciles. Et lorsqu'ils sont pénibles, un petit démon se glisse sur notre épaule et il nous murmure à l'oreille, « Tu vois, Dieu ne t'aime pas. Il n'agirait pas comme cela à ton égard, Dieu, si vraiment il t'aimait. » Et le diable cherche toujours à présenter les actes d'amour de Dieu en les disant en œuvre mauvaise. Oui, Dieu agit à notre égard comme avec des fils. C'est la discipline. Et elle agit contre la chair. Et Dieu a dû faire plusieurs fois cela contre moi. Oui, c'était nécessaire, je le reconnais. Et comment? La lettre dit, ce n'est pas agréable pour le moment. Eh bien non. Elle pourrait dire en vérité, c'est très dur. Quel est le Père, dit cette lettre? qui ne châtie pas ou jamais son fils. Ce que nous disons n'est pas facile à dire, parce que nous pouvons nous exposer à la verge, au bâton. Nous avons assez d'expérience pour savoir que nous devons parler avec beaucoup de prudence, parce que nous sommes souvent éprouvés au sujet de ce que nous avons dit. Mais nous avons ici cette vérité que seul un père sans amour ne châtie jamais son enfant. Avez-vous rencontré des enfants qui n'avaient jamais été châtiés ou punis? Ces enfants traverseront un jour ou l'autre, et parfois plus vite qu'on pense, un temps difficile dans ce monde. Ils ne seront pas aimés et ils le découvriront. Leurs parents les ont, hélas, trop gâtés. Cette lettre dit que Dieu exprime son amour pour ses enfants en se servant de la verge, du bâton. Il ne présente pas toujours ces bonnes choses, ces choses les meilleures, sous une forme agréable. J'entendais parler l'autre jour d'un petit enfant qui devait prendre un remède qui n'était pas du tout bon. Son père lui dit « Il y a beaucoup de vitamines dans ce remède ». Le petit garçon a répondu « Mais papa, pourquoi souvent les bonnes choses doivent être mises dans quelque chose d'horrible? Pourquoi ne peuvent-elles pas être mises dans, par exemple, une bonne glace? Le Seigneur ne met pas toujours les bonnes choses dans une bonne glace. Les vitamines sont quelquefois une drogue affreuse. Or, c'est exactement ce que nous dit cette lettre. Dieu ne nous condamne pas lorsqu'il agit à notre égard à cette manière. Il agit afin de nous délivrer. Si nous croyons que ces entretiens nous sauveront, eh bien, nous nous trompons. Ils ne font qu'expliquer ce que Dieu fait à notre égard. Dieu ne nous sauve jamais uniquement par une théorie. Nous pouvons lire tout ce qui a été écrit sur la doctrine chrétienne et rester le même homme, et j'ajoute femme, ou on peut rester tel quel. Les voies de Dieu sont toujours pratiques, et il nous enseigne par l'expérience. Et cette expérience est quelquefois très, très difficile. Et elle est appelée ici la discipline des fils, et j'ajoute des filles. Que le Seigneur Jésus veille et veuille de nouveau imprégner nos cœurs, vos cœurs, de toutes ces vérités que nous venons de parcourir ensemble. Dieu parle encore en son Fils et il parle afin d'avoir des compagnons, des disciples pour son Fils. Les disciples de cette vocation céleste et de Christ devront passer par une dure école et ils devront apprendre beaucoup de leçons difficiles. Mais en les apprenant, ils en arriveront à comprendre combien grand est leur héritage en notre Seigneur Jésus. Pour terminer cette étude plutôt courte, puis-je ajouter ces quelques pensées? Mon expérience, c'est que personne ne possède de connaissances spirituelles sans aucune souffrance. En tout cas, ce n'était pas mon cas. nous ne parlons pas de la connaissance intellectuelle, nous parlons de la réelle connaissance du Seigneur dans notre vie intérieure. Je ne connais personne qui soit arrivé à cette connaissance sans la souffrance. Je connais une pasteur amie qui a souffert plus de 14 ans. Eh bien, c'est épouvantable et je prie tous les jours pour que le Seigneur l'aime et qu'il lui donne du bonheur, qu'il l'aime de tout ce qu'on peut présenter dans ce mot « aimer ». Peut-être est-ce quelque chose de déprimant à dire, mais il en est ainsi, c'est une loi dans la Sainte Parole de Dieu. Nous portons ce trésor dans des vases de terre, est-il dit dans 2 Corinthiens chapitre 4 verset 7. Et combien pauvre est ce vase ! Nous l'apprenons dans l'épreuve et dans l'affliction. Mais nous apprenons combien merveilleux est le Seigneur. La lettre aux Hébreux dit « ensuite », elle dit « ensuite », c'est-à-dire après le châtiment, un fruit de justice et de paix. Après le châtiment, il y a un fruit de justice et de paix. Alléluia. Chapitre 12, verset 11 de la lettre aux Hébreux. Quelle phrase merveilleuse ! Ces fruits sont donc produits incorruptibles, mais vrais. Ils sont produits par le châtiment et par le chemin de la souffrance, comme cette pasteur amie qui, c'est horrible, et je dirais même, ça peut paraître injuste, mais il y aura la victoire, il y aura le bonheur, il y aura l'épanouissement. Ah, j'en suis certain. Si j'en étais pas certain, je continuerais pas de prier, voyons. Demandons donc la grâce qu'avait notre apôtre, que nous puissions tous nous réjouir, parfois même dans la souffrance. Que croyez-vous, cet attentat à des chrétiens innocents, sans défense, parce qu'ils ne sont pas aimés trop, pour ne pas dire pas du tout, des centaines de blessés, sans compter les morts. Chers amis, nous allons prier ensemble, et après, j'aimerais essayer de vous mettre quelques chants que j'ai enregistrés sur cassette il y a 47 ans. Évidemment, ce n'est pas très audible, facile, mais ainsi vous pouvez peut-être constater ce qu'il y avait en ce temps-là comme chant, comme cantique, comme mélodie chrétienne. Prions. Prier, c'est pouvoir tout dire à celui dont l'amour est absolument sans borne et la puissance illimitée. Que pourrait-il nous manquer ? Cette prière, je te prie, toi qui écoutes, fais-la, toi maintenant, toi qui écoutes cette prière, fais-la pour toi-même. Jésus-Christ, tu as prononcé une parole merveilleuse. Je suis le bon pasteur. Le bon pasteur donne sa vie pour ses brebis. C'est ce que tu nous dis dans l'évangile de Saint Jean, chapitre 10, verset 11. Tu pars à ma recherche lorsque je me suis perdu ou que je me suis trompé ici ou là. Tu ne me fais pas de reproches, mais tu me prends tout simplement sur tes épaules aimantes et tu me portes jusqu'à l'endroit où je puis revivre. tu me connais, et tu te préoccupes de moi, et tu as donné ta vie pour moi. Je compte tellement pour toi que tu mets pour moi ta vie dans la balance. Souvent, lorsque je ne peux pas m'accepter moi-même, quand je semble de tellement peu de valeur à mes propres yeux, eh bien l'image du bon pasteur me fait du bien. Je m'imagine la façon dont tu me portes sur tes épaules, et lorsque j'en suis sûr, ma vie sera une réussite. Je n'ai plus besoin de me faire de reproches à propos du passé, car maintenant ce sera bien. Maintenant, tu es auprès de moi. Quand tu es près de moi, je trouve le pâturage qui me nourrit et m'offre le repos. Tu es le bon berger qui me donne la vie en plénitude. Permets-moi de ressentir aujourd'hui cette vie en plénitude. Amen. Et chers amis, maintenant, je veux essayer, et j'espère qu'on y arrivera, de vous donner ces chants d'il y a 47 ans. Thank you.
Thank you. Quiconque croit en lui ait la vie éternelle.
Voici l'agneau de Dieu. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du
point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. L'honneur, la gloire et la...